Christ revient, il dit sa vérité. L'être 1. Moi, le Christ, je saisis cette occasion de vous parler directement. Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites de l'enseignement que j'ai dispensé, il y a 2000 ans en Palestine, où j'étais connu sous le nom de Jésus. Mes paroles vous sont transmises par une personne qui, depuis 40 ans, est suffisamment sensible à la spiritualité, et dévouée pour les recevoir et y donner suite. Ces lettres sont vérité 3. Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. Ces lettres vous libéreront. Elles sont destinées à tous ceux qui cherchent un sens à la vie, un but à leur existence ou la force d'affronter leur lutte quotidienne pour la vie, qui souffrent de chagrin, de maladie, de désespoir. Elles sont source d'inspiration pour ceux qui aspirent à davantage de connaissances spirituelles dans leur vie quotidienne. On pourrait dire que ces lettres sont un cours magistral destiné à ceux qui sont prêts à entamer la voie que j'ai suivie alors que j'étais sur terre, en Palestine. Il se pourrait que vous doutiez que les mots ci-dessus sont vrais. Mais lorsque vous lirez les pages qui suivent, et en arriverez au fait que je vous révèle au sujet de l'existence et de l'origine de la personnalité, vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Si vous avez de la difficulté à comprendre ces lettres, je vous suggère d'en lire une page à la fois, puis de la mettre de côté et la méditer. Peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience, car ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Abordez ces lettres, l'esprit aussi libre d'idées, de croyances ou de préjugés que laisse le petit enfant, qui n'a pas encore été endoctriné par les croyances humaines. Apportez-moi un esprit silencieux, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, lorsque vous l'assimilerez, allégera votre fardeau quotidien, et vous conduira jusqu'au vert pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, de joie, de ravissement et de plénitude. Peu à peu, vous en arriverez à ressentir l'abondante bénédiction de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. Ces lettres sont adressées à tous les peuples de la terre avec ma compassion et mon amour. En les lisant, vous ressentirez l'amour et la compassion, et en arriverez à réaliser qu'il n'avait jamais été planifié que vous dussiez lutter quotidiennement pour la vie. Il n'est pas nécessaire que vous viviez de la douleur et des tensions si vous comprenez, assimilez et pratiquez la vérité de l'existence en conséquence. Troites l'été Artrut. Christ revient, il dit sa vérité de l'être imbue de ses lettres 4. Elles sont destinées à porter l'illumination 5 au monde en général, afin de permettre à l'humanité de construire un nouvel état de conscience au cours des deux prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution future du genre humain. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de l'état de conscience humain qui suscite l'évolution mentale et physique de votre vie, sur le plan personnel autant que sur le plan général, et qui conduit l'humanité vers un état de bien-être plus harmonieux. Si vous avez du mal à le croire, considérez les deux millénaires passés, et voyez ce qui a été accompli, depuis que j'ai parlé pour la dernière fois au peuple en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire telle celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs dont les prophètes, pendant des générations, les avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. L'humanité ayant développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est rendue la vie plus agréable et plus confortable, sous forme de considération mutuelle, de courtoisie, de bonté et par la mise à disposition d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme, et de bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel, et à la compassion pour leurs prochains. Cette sorte de sollicitude spirituelle, et d'amour fraternel reçut une formidable nouvelle impulsion au cours du XIXe siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité, et une intensité renouvelée du haut des chairs, et reçues heureusement par des fidèles sérieux et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient, en ce temps-là, répandus dans le monde entier et sur tous les continents. Le sabbat était réellement considéré comme un jour de repos et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales entraînait une élévation de toute une journée de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice, créant un état de conscience humain divin régulier et puissant qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La prière attira la puissance divine dans les consciences, et l'expérience humaine ne fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. 4 de Purpose 20 l'été, lit l'objectif derrière ces lettres. 5 en lictam, illumination ou éclairage. Christ revient-il dit sa vérité 3 lettres cependant, les gens ne savaient toujours pas diriger mentalement la puissance divine vers des voies spirituelles, plutôt qu'égocentriques de créativité. De ce fait, l'expansion de l'état de conscience collectif, produisit des résultats négatifs, émanant du pouvoir de l'ego, en même temps que des résultats positifs émanant de l'état de conscience spirituelle des gens inspirés et illuminés. Nota bene. C'est pourquoi, je viens expressément pour vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Veuillez lire attentivement. Voici, votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie, et vos expériences personnelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Astérisque. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes émotions passées, provenant de vies antérieures, qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Astérisque. Il se peut que vos prières spécifiques et passionnées en vue d'un soulagement de quelque sorte soient exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme, si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contravention aux lois universelles d'amour, et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Astérisque. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables, elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elle s'applique aux facteurs causatifs de la conscience qui attire, magnétise des particules électriques, lesquelles, ainsi, se relient et apparaissent au monde sous des formes, et comme des expériences extérieures, visibles et solides. Nota bene. Il arrive que certaines personnes, par une prière puissante, établissent un contact avec la réalité divine, qui réside derrière et en toute création. Elle répond alors et son activité se manifeste brièvement dans des améliorations nécessaires à la vie personnelle et ou nationale, et l'on s'exclamera peut-être, c'est un miracle. Mais à long terme, l'état de conscience personnelle ou nationale se réaffirmera dans son expérience et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. On ne peut effectuer de changement durable dans sa vie à moins de ne changer son état de conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel. Car, au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé leur développement spirituel. Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la vie et les attribuer au hasard. En conséquence directe, les gens ont jeté la moralité aux orties, et se sont mis à céder totalement à leur volonté propre. Christ revient-il dit sa vérité 4 lettres 1, Ils ont inauguré une nouvelle ère de menace dans le monde en créant un nouvel état de conscience planétaire, centré sur l'ego, en opposition directe à la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine a fermé la porte à l'influx du divin. Notez bien, l'imagination morbide de quelques êtres, qui auraient été limités localement il y a un siècle, est maintenant devenue une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, qui se répand dans le monde entier, et crée une conscience humaine générale, qui leur ressemble et qui s'exprime dans les excès sexuels, la violence et la perversion. Cette infection mentale se manifeste d'abord par des modes de vie égocentriques, et par la création d'instruments techniques, lesquels créent de sérieux problèmes de santé, des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la détérioration de l'environnement, l'extinction de diverses espèces, et le massacre de populations entières d'êtres humains. Dans la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste par des comportements anarchiques et destructeurs, par la consommation de drogue, par une dépravation et une cruauté abominable, par des opérations mafieuses et des excès sexuels. Un cercle vicieux de malignité et de perversion de la pensée, et des activités a ainsi été créé par les médias, et l'industrie des divertissements. Leur but est de capter l'intérêt du public engagé dans l'égocentrisme. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle Bible du comportement humain. Des tragédies personnelles, inconnues de l'espèce humaine il y a 100 ans, se généralisent et les gens craignent de sortir de chez eux. Les gens se barricadent derrière de hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics réguliers, et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère humaine. Voilà ce qu'est la beute qui s'avance sur vos terres, nourrissant les esprits innocents de miasmes de bestialité. Cela se perpétuera jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée et vécue par la majorité des peuples de la terre. Car cette connaissance vous indiquera le chemin du retour sur le véritable sentier de la vie, afin de créer le genre de vie auquel vous aspirez. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que les esprits spirituels pressentent, mais que rejettent ceux qui sont spirituellement aveugles, provisoirement. Ces paroles ne sont pas censées vous menacer ou vous punir, mais vous rendre attentif à la source des horreurs indicibles, qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos émissions de télévision. Ce n'est que mon amour pour vous tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre la dimension de la dépravation humaine, afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie actuelle. Notez bien, important, vous vous demandez d'où peut provenir le virus du sida, qui attaque le précieux système immunitaire de l'homme, et qui vise ses capacités de procréation. Christ revient-il dit sa vérité 5 lettres 1 ce virus, si on le laisse se répandre sans le juguler, non par des médicaments, mais par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui ne sont pas sur leur garde. Les esprits éclairés éviteront ce piège, comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous. Prenez conscience. Vos puissants sursauts de conscience sont des impulsions de vie. Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatives. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulente, violente, agressive et meurtrière qui se manifestent sous forme de virus virulent dans l'air, et se transmettent d'un innocent à un autre. Ce qui naît et se développe dans un esprit malade, finit par prendre forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu, comme vous l'enseigne l'Église. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est d'une extrême urgence que les personnes orientées vers la spiritualité se débarrassent de ces idées infantiles, afin de percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je suis venu expressément pour vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine. J'expliquerai exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension innée à la volonté égocentrique et d'un désir non maîtrisé d'autogratification et d'autodéfense. Il ne s'agit pas de péché, mais d'une partie du processus naturel de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut. Les hommes, du fait de l'exercice volontaire et nuisible de leur ego, s'attirent eux-mêmes leur punition. Notez bien, c'est pourquoi, de même que les livres d'enseignement scientifique deviennent superflus du fait que l'esprit humain découvre et assimile de plus en plus de connaissances scientifiques nouvelles, il faudrait permettre à la forme présente de la chrétienté, construite sur de fausses doctrines centrées sur ma crucifixion, de mourir de mort naturelle. N.B. Votre crise mondiale actuelle, qui crée un nouvel effondrement des lois internationales, et établit les fondations d'un futur terrorisme planétaire, indique clairement qu'aucune religion au monde ne possède la connaissance requise et l'autorité suffisante pour initier des changements dans les façons de penser de l'humanité qui pourraient la conduire directement à la paix et à la prospérité. Le véritable dirigeant si spirituel sera capable de démontrer à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée les calamités et les horreurs, lesquelles se créent dans son état. 6 de True Spiritual Leader. Christ revient-il dit sa vérité 6 l'être un de conscience, et ne commence qu'à peine à déployer leur plein effet parmi vous, sous forme d'épidémie, de tremblements de terre, d'inondations, de famines, de guerres, de révolutions et autres tragédies. Soyez certains qu'aucun mal ne survenant sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être prend naissance d'abord dans votre état de conscience humain avant de prendre forme dans votre expérience planétaire. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur terre, et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises sont moribondes, cristallisées dans leurs rituels et leurs dogmes, leurs prêtres et leurs pasteurs sont incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les églises doivent éliminer leurs différences et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur terre par des moyens qui leur semblent acceptables. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable aux yeux des Juifs. Les églises doivent garder l'esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent, et abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement, de toute votre âme, votre esprit et votre cœur, pour une véritable illumination plutôt que pour la réitération d'anciennes croyances erronées. Réveillez-vous et reconnaissez que ces rituels et croyances obsolètes n'ont pas accompli ce que promettaient mes paroles à l'humanité quand je disais que vous feriez de plus grandes choses encore que moi. En attendant, et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prières, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, de votre cœur et de votre esprit, minute par minute, dans votre vie quotidienne. Parce que, pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer au niveau suivant de son développement. Un besoin urgent d'une vision supérieure, il faut qu'il soit mondialement reconnu, qu'il faut absolument accéder à une vision supérieure, et la mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Ce n'est qu'en accédant à une vision plus élevée, que le monde physique sera sauvé de sa totale annihilation. Sans cette nouvelle vision de l'individu ou de la planète, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle, ni de réalisation de ces choses tant désirées. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de fardeau et de privation. Ces croyances sont dépeintes et renforcées de manière choquante par vos émissions télévisées. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez ne jamais connaître. Christ revient-il dit sa vérité cette lettre par conséquent, pour vous sauver de votre propre folie, qui s'exprime à travers les médias et la télévision, l'état de conscience de l'humanité, doit très rapidement s'élever afin de voir, ce que j'ai vu dans le désert, la réalité de l'amour derrière et en tout ce qui existe. NB, lorsque cette grande vérité sera perçue, aussi bien qu'accueillie avec chaleur, la réalité de l'amour commencera à se manifester d'elle-même de toutes sortes de manières, en chaque être vivant et dans l'environnement même. L'expérience de l'abondance et de la joie, renforcera la conscience d'abondance et de joie. C'est ainsi qu'une spirale spirituelle de vie de plus en plus exaltée, et merveilleuse se mettra en mouvement. Lorsque la véritable nature de l'être sera bien comprise, l'humanité accédera à un nouvel échelon de son évolution spirituelle, et initiera une forme nouvelle, et bénie d'entreprises humaines, et d'expériences personnelles. Pour atteindre ces objectifs, l'humanité doit d'abord accéder à un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est. Une question nouvelle et importante se présente déjà à la conscience des gens. Qui êtes-vous, réellement, derrière la façade que vous présentez au monde? Que faut-il pour être réel? C'est à cette question, qui êtes-vous en réalité, qu'il est répondu dans les pages qui suivent, à tous les niveaux de votre être. Et si vous pouvez accepter, en guise de repère pour votre vie quotidienne, tout ce que j'ai compris dans les 6 semaines, que j'ai vécu dans le désert, vous aussi deviendrez finalement complet et réel. Tout comme je suis devenu complet et réel avant de commencer mon ministère de guérisseur et d'enseignant. Comme il y a peu de gens, dans le monde, qui pourraient se considérer complets actuellement, vous reconnaîtrez sûrement qu'il est de la plus urgente nécessité que je m'immisce dans votre esprit pour vous amener à une nouvelle manière de penser et de ressentir. Un tel changement de conscience vous mettra en harmonie divine avec la réalité, et dans de meilleures conditions de vie et de sécurité. Afin de pouvoir faire ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, je dois d'abord imprimer en votre esprit, et il vous faut l'accepter, que j'ai enseigné, en Palestine, beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Il est assez significatif que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi, il n'a jamais fait mention de mes années de jeunesse. Quelle est la vraie raison d'une omission aussi importante? Tout aussi significatif est le fait que, bien que j'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême, et que je sois revenu de cette expérience enseignant et guérisseur, aucun auteur n'a jamais tenté de décrire ce qui s'est vraiment passé pendant ce temps, mis à part que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages, et que les anges étaient avec moi. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'a permis de revenir dans les villes, et les villages en proclamant, « Le royaume de Dieu est en vous », et d'enseigner dans les synagogues avec une telle autorité, que les anciens du peuple juif en furent étonnés. Christ revient-il dit sa vérité 8 lettres 1 La vérité concernant mon état humain fut, selon un commun accord entre mes disciples, supprimé pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le Fils unique de Dieu. Pourquoi, dès lors, ai-je souvent dit de moi que j'étais le Fils de l'homme? J'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient en ce temps sur ma divinité, et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'étais de la même origine physique qu'eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, ils le pouvaient aussi pourvu qu'ils possèdent ma connaissance, et suivent mes instructions pour une pensée juste et une action juste. Tant de mythes se sont créés au sujet de ma personne terrestre, et de ma conscience spirituelle, qu'il est temps de s'en débarrasser aussi complètement que possible, puisqu'ils empêchent les hommes d'évoluer spirituellement. Vous, qui avez été endoctriné par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes n'ont relaté que ce dont ils se souvenaient personnellement, et qui appuyaient ce qu'ils considéraient comme étant mes activités surnaturelles. Ils y ont aussi inclus beaucoup de choses qui avaient été dites de moi par d'autres pendant les quelques 30 années suivant ma mort. Après un tel laps de temps et l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il bien écrire une biographie faisant autorité à mon sujet, et au sujet de ce qui s'était réellement passé, ou expliquer correctement mes véritables perceptions spirituelles, qui donnèrent naissance à mes paroles et à mes miracles? Une seule personne peut en parler, et c'est moi-même. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma vérité, comme aucun témoin n'a jamais pu le faire, quoiqu'il ait pu comprendre de ma pensée. C'est la raison pour laquelle, depuis 40 ans, l'esprit de ma porte-parole 7 est systématiquement purifié de tout enseignement orthodoxe, et le système de communication entre nous est perfectionné. Si ma vérité, exprimée dans ces lettres, diffère de beaucoup de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? Par conséquent, j'abaisse brièvement ma conscience, autant que nécessaire 8, vers votre plan de conscience pour raconter ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Il me faut d'abord relever que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph. Mais ce n'est pas le cas. Moi, qui suis devenu ultérieurement le Christ qui accomplissait de soi-disant miracles de guérison et de s'être accordé la porte-parole. 8 AM descending in cusius nes briefly, aneora necessario. Christ revient-il dit sa vérité 9 lettres à matérialisation, j'étais bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un harangueur de foule. Je n'ai pas agité délibérément les foules pour défier les Romains, et transgresser la loi et l'ordre établi. Je me rebellais contre les traditions juives et aussi parce que, lorsque je suis revenu de mon séjour de 6 semaines dans le désert, j'ai vu un meilleur moyen de penser et de vivre, et que j'ai essayé sans succès de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs. Il est important que vous compreniez la pression qu'exerçait l'opinion publique sur mes compagnons. S'ils pensaient sincèrement que j'avais apporté aux Juifs un message sauvant les âmes et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils n'en étaient pas moins du monde, essayant de se relier au monde aussi bien que possible. Aussi, bien qu'ils connussent mes sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyances juives, ils n'étaient pas heureux de renoncer à tout l'Ancien Testament, qui avait soutenu le peuple juif, et en avait conservé la cohésion tout au long de son histoire. Dans l'intérêt de préserver ce qu'ils pensaient être de valeur dans l'ancienne administration, ils supprimèrent toute description relative à la personne que j'étais. Mes disciples, ainsi que Paul, ont bâti leur propre édifice de croyance sacrée sur ce qu'ils souhaitaient conserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne consolidèrent que ce qu'ils estimaient valable pour les gens, juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour les temps futurs. En conséquence, ils trièrent ce qu'ils pouvaient utiliser, et abandonnèrent la plus grande partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent jamais. Ils ne les estimèrent pas non plus désirables dans la création d'une nouvelle perception du divin, du Père. Pour préserver la croyance juive du lavage du péché par le sacrifice dans le temple, la personne de Jésus fut adoptée en tant que sacrifice suprême, qui lave tous les péchés des hommes par sa crucifixion. Cette croyance a servi de nombreux buts à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. Elle prouvait au peuple que j'étais le Fils de Dieu, qui avait accompli une mission précise à la fin de sa vie. Elle s'avéra aussi être d'un grand réconfort pour les Juifs, lorsque leur temple fut détruit par les Romains, et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs et de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, il était très réconfortant d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. trop d'humains pensaient alors que la vie était impossible sans corps. La vie après la mort ne pouvait, donc, signifier que la résurrection du corps. Cela fit aussi que mon nom est resté constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique, morte vaillamment pour assurer que l'homme serait libéré de toute crainte de l'enfer et de la damnation. Pourvu qu'ils croient en moi, ils étaient libérés. Christ revient-il dit sa vérité dit l'être un ce n'est que parce que mon nom est resté vivant jusqu'à ce jour que je peux aujourd'hui venir à vous, et vous dire la vérité que je désirais tant transmettre aux gens il y a 2000 ans. Ma jeunesse et mes expériences dans le désert je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un enfant sage. Lorsque, à l'âge de 12 ans, je fus emmené au temple pour être interrogé par les prêtres, afin de déterminer si j'étais susceptible d'accéder à l'enseignement religieux juif, je fus rejeté sous prétexte que j'étais trop arrogant. Amèrement déçu, ma mère me ramena à la maison, et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. Ce fut une tâche impossible car j'étais, avant toute chose, un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils de ma mère, et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant me moquer de la bigoterie. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, connaissant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux, outre avec d'autres travaux me procurant assez d'argent pour manger et boire, et me permettre la liberté que je recherchais. Malgré mes faiblesses humaines, mes attitudes nonchalantes, débonnaires et indolentes, malgré mon égoïsme et ma forte tête, malgré mon peu de respect pour ce qu'on essayait de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour autrui. J'étais alors profondément émotionnel. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyperémotif. J'avais un cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. J'étais profondément ému en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux, dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs, je les comprenais et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Il est important de comprendre mes vraies origines, et mes caractéristiques de jeune homme, parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent, et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que détestait et combattait le plus était la misère, la maladie et la pauvreté, que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux, et j'entrais dans une colère noire en voyant des gens en guenille, maigrés affamés, malades et estropiés, être traités avec mépris par des dirigeants juifs sans cœur, qui les accablaient de lois et de rites traditionnels sans fondement, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui m'écoutaient, que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans être écrasés de surcroît par des mesures, les privant de plaisir et qui n'avaient aucun sens. Quel était le sens de la vie, si l'on n'était pas né pour être heureux? Je refusais de croire au dire juste de la tradition juive. Les avertissements bibliques prophétiques du jugement de Jéhovah, et de son courroux contre le peuple me dégoûtaient. Les gens étaient des. Christ revient-il dit sa vérité onze l'être un humain, après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché, pourquoi donc auraient-ils dû être jugés et condamnés à une vie de souffrance et de misère, parce qu'ils contrevenaient aux 10 commandements? Quel était le sens de telle déclaration? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, Les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit, et calmaient mes diatribes enflammées contre le dur juif. En conséquence, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seul dans les collines, et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérais mon style de vie, et vis combien de souffrances mes actions avaient causées à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait porté à un comportement irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour sous-jacent pour eux me submergea, et je me découvris soudain devenir également rebelle face à mon comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste, et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. Je savais que malgré ma grande émotivité, j'étais aussi né avec une vive intelligence, et un don pour la polémique pénétrant et très persuasif, que j'avais utilisé égoïstement et de façon négative, entraînant les gens dans des disputes violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie égoïste de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et d'ailleurs tout respect pour moi-même aussi. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'a paru qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de faire simplement du bruit, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême, lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir, pour une fois, pris une décision positive, celle de réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison, et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Christ revient, il dit sa vérité. 12 lettres 1, je sentis une énorme vague d'une énergie incroyable déferler à travers mon corps. J'en fus littéralement foudroyé. Comme je sortais de la rivière, tout chancelant, je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Un énorme flux d'un bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement et conscient d'une intense lumière. Je m'éloignais de la rivière en trébuchant, et marchais sans discontinuer, sans savoir où j'allais. Je continuais, aveuglément, à avancer jusque dans le désert. Veuillez noter. Mes 6 semaines dans le désert ont été un temps de purification intérieure totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances, mes préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de me référer à Dieu sous ce nom, et utiliserai une terminologie destinée à élargir votre esprit jusqu'à saisir ce qui est réel, derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Cette terminologie revêtira pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérerez dans la prière et la méditation. Ce que je ressentis dans le désert, je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse, et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais rempli d'extase et de joie et je sus, sans aucun doute possible, que cette puissance était le véritable Créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette merveilleuse paix, ce sens de parfait accomplissement, qui ne nécessitait rien de plus, pour être un instant magique neuf, était la véritable nature de la réalité, la puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. J'ai été soulevé dans une autre dimension de perception consciente, qui m'a permis de voir la vérité au sujet de la vie et de l'existence. J'ai vu, avec lucidité et clarté, ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. J'ai réalisé que cette puissance créatrice, que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toutes choses vivantes. J'ai vu que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain, émanait de l'esprit créateur divin, et n'était qu'une bougie allumée par le soleil. 9 Neding Noting Morto Biadito Tabot et Ful Moment. Christ revient-il dit sa vérité 13 L'être un par moment, ma vue humaine était spirituellement, si élevée que je pouvais voir au travers des rochers, de la terre, du sable. Ceci me paraissait alors n'être, qu'un chatoiement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Aussitôt que j'avais des doutes qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient, et beaucoup plus tard, je découvris que, mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements dans ce chatoiement de poussière, que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement, et donc produire des modifications dans l'apparence du rocher ou de toute autre chose que j'étudiais. C'est à ce stade que j'en vins à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement, la conviction ou une foi inébranlable, lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou une simple croyance. Le plus saisissant était que je réalisais, en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin, est réellement la puissance créatrice de l'Esprit divin lui-même, rendu visible dans ce chatoiement de poussière infinitésimale. Et mieux, que l'activité de la pensée humaine, pouvait profondément affecter son apparence. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers, et que tout ce qui était visible, était une manifestation d'un certain état de conscience, qui déterminait la composition et la forme de ce chatoiement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Je réalisais que vie et conscience, n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire, ceci, c'est de la vie et cela, c'est de la conscience. La conscience était la vie, était conscience et tous deux étaient la puissance créatrice, l'esprit divin universel au-delà, au-dedans de, et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance prépondérante à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer l'esprit et l'intelligence opérant effectivement de toute autre manière, que par le moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs s'étaient créé une image mentale d'un immense être suprême, doté de tous les attributs, positifs et négatifs, de l'être humain. De ce fait, les prophètes pouvaient croire et parler du courroux de Jéhovah, de ses menaces de punition, de ses épreuves sous forme de maladies et d'épidémies en punition de l'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisées je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Christ revient-il dit sa vérité 14 lettres 1, je perçus qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était le facteur primordial présidant à la création et à l'homme lui-même. En conséquence, la Genèse devait être reformulée de la manière suivante, avant toute création, était l'esprit universel, la puissance créatrice, derrière et en la création elle-même. Et en vue avec une telle clarté et sans équivoque possible, que la puissance créatrice de l'esprit universel était partout, dans l'infini des cieux ainsi que, sous sa forme active, dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi, où je ne voyais que du gravier et des rochers. Puis, Soudainement, me fut présenté le tableau d'un paysage superbe où poussaient toutes sortes de plantes, de buissons et d'arbres concevables, des oiseaux voletaient dans les arbres, des animaux paissaient l'herbe. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis ce que les plantes et les arbres, chacun d'eux et, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites, que vos scientifiques modernes appellent des cellules, œuvrant continuellement, dans un esprit de coopération totalement harmonieux, pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Regardant et regardant encore, je pensais, qui devinerait qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités, travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisé-je, fait partie intégrante de l'activité de la puissance créatrice, depuis la moindre entité, ou cellule, à l'intérieur des systèmes vivants jusqu'à l'entité, la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans le système de tout être vivant, tout le travail était en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle se trouvaient tous les plans et desseins de la création. Je vis que tous ces plans et desseins étaient en réalité des formes de conscience, et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Ainsi, la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice se manifeste dans le monde visible. La parole, et par conséquent le modèle de conscience, subsiste dans l'esprit créateur divin en se reproduisant en permanence. Je vis alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait et avait son être dans la puissance créatrice de l'esprit universel, lequel était infini et éternel, et la seule vraie réalité derrière toutes les manifestations de formes individualisées. Je sentis monter en moi un flot de louanges pour tout ce que contenait le monde et qui provenait de cette suprême puissance créatrice de l'esprit divin tout en y résidant. Je m'émerveillais de toute cette activité secrète qui se produisait à jamais en toute chose vivante, corps humain y compris et je. Christ revient-il dit sa vérité 15 L'être demandait comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites travaillassent en totale intelligence, selon des plans spécifiques, pour produire infailliblement les formes proposées, troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains. Puis-je réalisais encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle la puisait dans la source universelle de toute créature. En outre, il me fut donné de voir que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Il me fut montré que, tout comme les hommes ont des caractéristiques précises, et une nature bien définie dans la manière dont ils se présentent au monde en général, la puissance créatrice possédait elle aussi une nature définie avec précision, avec des caractéristiques distinctes, qui se reconnaissaient clairement dans la manière dont étaient construites et maintenues en vie toutes les choses vivantes, végétaux, animaux, oiseaux, êtres humains. Je vis que ces principes et caractéristiques, clairement observables dans le processus de création, étaient des lois invariables, fixe, régissant toute existence. Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables et cohérentes, mais de telles lois n'existeraient pas, s'il n'y avait pas de puissance créatrice intelligente, se manifestant dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même, sont les suivants. Je les conjugue au présent car ces principes sont éternels. 1. La nature de la puissance créatrice est évolution 10. Tout ce qui vit, croit et évolue indéfiniment. L'évolution est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. 2. La nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture constituent un processus normal, et merveilleusement organisé dans le corps, évident pour tous ceux qui se donnent la peine de l'examiner. La nourriture est fournie à toute créature vivante selon ses préférences individuelles, et est digérée en vue de promouvoir santé et bien-être. Qu'en est-ce de petites créatures ? Le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant les nouveau-nés. En cela aussi réside un principe d'existence mystérieux que personne ne peut nier. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite, inhérente au système de survie des espèces, serait apparue dans l'existence. La fonction actuelle peut en elle-même être comprise, mais non la raison ni la source de la fonction. 10 Growth. Croissance dans le sens d'évolution ou de développement. Christ revient-il dit sa vérité 16 lettre 1. 3. La nature de la puissance créatrice est guérison 11. La guérison est une caractéristique naturelle de l'existence, et l'on peut la considérer comme un processus de perfectionnement naturel, qui s'instaure pour assurer le bien-être individuel, mais personne ne peut expliquer ce qui induit l'activité de guérison. 4. La nature de la puissance créatrice, et protection. La protection, est une caractéristique intégrale de la puissance créatrice, dont toute l'activité apparemment miraculeuse, s'oriente vers la protection. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps, mais quand j'étais dans le désert, je vis que les caractéristiques de la protection étaient inhérentes à la puissance créatrice intelligente de la manière suivante. Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés, afin que je puisse les observer sous l'effet de l'inspiration, je pus voir que chaque besoin de protection des corps était pris en charge avec amour et une grande attention aux détails. 5. Cette caractéristique de protection se combine avec l'autre caractéristique dynamique de satisfaction des besoins. Cette caractéristique m'apparut clairement dans la chevelure, la fourrure et les plumes dont étaient pourvues les créatures vivantes, afin de protéger leur peau et de leur fournir de la chaleur en cas de froid et une protection contre la chaleur. Je vis que les extrémités tendres des doigts et des orteils, sensibles et importantes, étaient pourvus de la protection adéquate d'ongles et de sabots. Les sourcils leur protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils les protégeaient de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés d'un type de queue qui leur permettait de s'en débarrasser sur le champ. Que d'attention et d'amour, heureux et joyeux, s'exprimaient dans ces petits attributs physiques qui paraissaient si minimes et insignifiants et qui, pourtant, avait de si grandes répercussions sur le confort de tous les êtres vivants. Ces luxes physiques, ajoutés au modèle corporel de base, étaient clairement le produit d'une intelligence qui entendait que la création vécue dans le confort et le bonheur, libérée des soucis qu'eussent vécu l'homme et les bêtes, s'ils n'eussent pas été dotés de ces articles de luxe. Les fonctions naturelles même étaient conçues si intelligemment et si confortablement, qu'elles obligeaient à l'action de grâce. Et tout cela si bien enveloppé, que l'homme était béni, fortuné, de naître dans une vie si bien organisée. Une fois de plus, mes louanges s'élevèrent et je me sentis soulevé dans une lumière intérieure dorée de ravissement émerveillé, car je voyais maintenant que sans compter le fait qu'elles étaient censées être libres de tout souci, les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer l'amour exubérant de la nature de la puissance créatrice. C'est ainsi qu'elle. 11 Healing, guérison dans le sens de réparation ou de régénération. Christ revient-il dit sa vérité. 17 L'être un était équipé de membres, bras et mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour leur permettre de se mouvoir, de courir, sauter et danser, pour pouvoir exprimer leurs pensées et leurs émotions les plus intimes. Je sentis même que si le genre humain avait envie de voler et d'avoir des ailes, en croyant de tout son cœur qu'il le pouvait, il lui pousserait finalement un organe supplémentaire qui le lui permettrait. C'est à ce stade de compréhension de la nature de la puissance créatrice que je pris pleinement conscience de l'amour qui dirige l'œuvre de la puissance créatrice intelligente et universelle. Comme je méditais cet amour, je réalisais que dans la création, la mère nourrit, protège, satisfait aux besoins et essaie de promouvoir la guérison de sa progéniture, c'est là l'activité de l'amour. 6. La caractéristique innée de la puissance créatrice, aimante et intelligente qui a donné à la création, sa forme individuelle et son être est le travail. Elle travaille pour nous, en nous, et à travers nous. Son travail est toujours, toujours et toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivions. Ce fut le point culminant de mon illumination et de ma vue d'ensemble de la vérité concernant la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques composés de diverses communautés d'infiniment petites entités identiques travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différentes composantes du corps, la chair, les os, le sang et jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé en vue de leur but commun. L'impulsion divine, derrière toute cette activité intelligente et volontaire dans le corps, avait certainement dû inspirer les hommes, et être le fondement de leur conduite, quand ils travaillaient à l'unisson pour réaliser un objectif qu'ils avaient planifié. Ils tiraient leur intelligence et leur motivation de la puissance créatrice et néanmoins, combien différent était le comportement de l'homme, quand il s'engageait dans des travaux matériels ou tout autre projet commun, inévitablement caractérisé par des disputes et des dissensions. Je fus amené à réaliser que la puissance infinie de l'intelligence créatrice, à jamais active dans la création, maintenait un ordre, une coopération, une harmonie et une production quotidienne inégalées par l'homme en tout lieu et en tout temps. 7. La survie est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice. Dans chaque cas, les créatures disposaient de provisions des plus merveilleuses leur permettant de croître, de guérir de leurs maladies et de leurs blessures, de se nourrir pour conserver leur corps en bonne santé, pour se reproduire et pour assurer la survie sur cette terre. C'était la seule réalité dont l'humanité pouvait être absolument certaine, et son activité était constante, année après année. Le soleil, la lune et les étoiles restaient tous en place depuis des millénaires, et l'on savait qu'ils possédaient chacun sa trajectoire. Ce phénomène faisait partie du grand plan pour la survie de la création. Christ revient-il dit sa vérité. 18 L'être ainsi l'en était ainsi, comment pouvait-il ne pas y avoir survie de l'éternelle flamme de la puissance créatrice intelligente, et aimante cachée dans les entités de toutes les espèces créées dans l'univers? Ainsi, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente, et aimante au-delà de cette dimension. La réalité de la création tout entière résidait derrière ce monde visible. 8. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Toute chose était soumise aux saisons, qui commandaient la floraison et le bourgeonnement de la vie, une saison de croissance amenant une saison de mûrissement et de moisson, ainsi que la production de semences, qui assurait la survie de la vie végétale. Puis venait le lent dépérissement et le repos hivernal. Mais rien de ce qui était créé et vivant ne pouvait s'éteindre. Le soleil et la lune exprimaient ces caractéristiques dans l'univers. Ce rythme pouvait même se constater chez les femelles de toutes les créatures. Ainsi, tout, dans la création, avait son temps d'apparition et son temps de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des temps de croissance et d'épanouissement et à des temps de sommeil. 9. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente, aimante est ordre et loi. L'ordre immuable est la fiabilité apparente dans la création, régissant même les minuscules entités, les cellules, du corps, était stupéfiant et dépassait de loin toute tentative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait selon un système de loi et d'ordre parfait. Je réalisais, à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés, que la puissance créatrice manifestait une résolution intelligente, et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux d'amorphe, mais une puissance créatrice aimante, et intelligente que je pouvais réellement sentir en moi-même comme un état d'être prodigieusement élevé, une perception, un rayonnement, une extase, de la joie et de l'amour. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle, et que j'étais en unité avec tout, ce qui m'entourait avec le ciel et les étoiles. Et, le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice, Père était d'œuvrer en vue de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité, d'œuvrer en l'humanité pour lui donner joie, santé et confort intérieur et d'œuvrer à travers l'humanité pour lui inspirer des réalisations et des compréhensions nouvelles. De merveilleuses perspectives de glorieuse créativité me vinrent à l'esprit. Dès que nous devenions réellement un, des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pouvions graduellement nous élever en conscience jusqu'à pouvoir véritablement exprimer, à travers notre esprit et notre cœur, la nature même de la puissance créatrice universelle. Christ revient-il dit sa vérité 19 lettres 1 alors, la vie sur terre deviendrait vraiment un état paradisiaque en tout temps, et nous entrerions dans un état de vie éternelle. Je me dis que ce devait certainement être là le véritable but de la création. Et il me vint à l'esprit, avec une vague d'exaltation, d'amour et de joie, que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé et développé. Mais quoique l'homme fût, et est encore aujourd'hui, très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui était impossible dans le futur, puisque, malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice, et que la puissance créatrice était en lui, lui donne envie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Toute cette prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime, que je pouvais à peine le supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant le paysage désertique. Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous, à jamais. Quel miracle que la création! Je criais tout haut, tu es la source de tout être, le Créateur en même temps que ses manifestations en et à travers tout ce qui est créé, rien, dans l'univers tout entier, n'est séparé de l'infini illimité et éternel de la vie divine, de la conscience de la puissance créatrice que tu es, alors comment se peut-il que l'homme soit si pécheur, et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté et de misère? Dis-moi, ô puissance créatrice Père si aimante, car la douleur de leur vie misérable m'accable. Il me fut alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je ressentis une excitation intense, car j'allais enfin pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine aussi, et non puisse permettre que sa création souffre une telle misère. Il me fut montré que tout être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu en paix dans la plénitude, et prospérer dans une société d'êtres, n'ayant qu'amour les uns pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions de base pénétrèrent dans l'être pour garantir son individualité, et c'était elle qui contrôlait la conscience humaine. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée pour une lettre future, quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un bébé nouveau-né sous la forme d'une lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Le bébé grandissant pour devenir un enfant, puis un adulte, je vis graduellement diminuer la pure lumière de la puissance créatrice, puis finir par être complètement obscurci par une couche dense de chaînes et de cordes. Christ revient-il dit sa vérité vint l'être un, je demandai la signification de cette vision, et il me vint à l'esprit une compréhension claire, qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et affirment que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur propre réalité et celle de l'univers qui les entoure. De ce fait, et parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en est fait selon leurs croyances. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'une personne, ses réponses à autrui et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins, qui tous le lient et éteignent la lumière de sa vision intérieure tirée de la puissance créatrice. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit et mûrit selon les normes du monde, qui lui permettront d'aller de l'avant et de réussir, le but de la plupart des personnes sur Terre. En fait, plus il acquiert de maturité, et de savoir-faire dans ses entreprises matérielles, plus ses chaînes et ses cordes l'emprisonnent dans les griffes des impulsions jumelles d'attachement, rejet. En outre, chaque chaîne est forgée de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarice, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes pèsent lourdement à son cou et chargent le psychisme, qui est la puissance créatrice de la conscience qui gît en lui. Ses chaînes et ses cordes le lient de plus en plus étroitement au fur et à mesure que passent les années, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il s'inflige, se repente sincèrement pour chacune des cordes et des chaînes et fasse dûment réparation vis-à-vis de ceux qu'il a lésés. Grâce à cette vision, j'appris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais, en s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, se crée une prison de misère à laquelle il ne peut échapper, jusqu'au moment où il réalise la vérité de l'existence. Tous les problèmes d'une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Ce n'est seulement que l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui a créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice interpénétrant l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances et un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, bon ou mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience, qui reviendra le favoriser dans la mesure où il aura favorisé les autres. Quelque maladie que l'homme apprend, il en sera la victime car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme, lui revient en son temps sous une forme ou une autre, mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil. Dépensez fortement. Christ revient-il dit sa vérité 21 l'être un empreinte d'émotion chez un homme, sont des semences de conscience plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucune manière pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine, et est pareillement créatif par son imagination. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice, et elles sont amenées dans le courant de la nature du Père qui est croissance, protection, nutrition, physique, mentale et spirituelle, guérison, satisfaction des besoins, dans un système d'ordre et de loi. Comment pourrais-je vous décrire mon feu intérieur, la lumière et l'éclat transcendant de ma joie, et des puissants sentiments d'amour, qui avaient pris possession de tout mon être, et le gonflaient si intensément que je criais sous la pression de mon cœur et de mon esprit? Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'ils allaient dissoudre ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime, de la réalité, de la source de notre être, et de la vraie nature de la création même et de l'humanité, je fus ravi en esprit et mon corps devint aussi léger que l'air. À ce moment, alors que j'étais ainsi élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais en effet presque une personne divine, expérimentant un degré élevé de la nature de la puissance créatrice perdue en moi, et ressentant sa puissante énergie, et sa sollicitude bienveillante pour toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite, en toute vérité, moi seul connais et ai vu le Père. À ce moment, comme je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et débarrasser les hommes de leurs souffrances et de leurs misères, je rêvais de les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur mythique. Lorsque je revins pour leur annoncer la vérité, avec quelle fougue je mis l'accent sur la réalité de l'amour parfait de la puissance créatrice Père subvenant à leurs moindres besoins. Il leur suffisait de demander, chercher, frapper pour que tous leurs besoins, de quelque nature qu'ils fussent, leur soient accordés. Avec quelle joie je leur annonçais la bonne nouvelle, que la rédemption de la souffrance était à leur portée s'ils voulaient seulement faire le nécessaire pour purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être manifesté. Ce devait être simple, pensais-je, il suffisait d'avoir de la compréhension et de la maîtrise de soi. Je descends vers vos niveaux de vibration pour me replacer dans mon état d'esprit, alors que j'étais dans le désert. Il vous sera d'une aide infinie pour votre compréhension d'essayer de pénétrer mon état. 12 de fait et créatif pour des. Christ revient-il dit sa vérité 22 l'être 1 de conscience d'alors. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront évidentes. Elles vous sembleront être une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification à vos yeux. Pour en revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là, dans le désert, possédant la claire compréhension que l'homme crée lui-même, sans aucun péché de sa part, la barrière qui l'empêche d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père, et j'avais maintenant hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tellement pitié. Pourtant, c'est à regret que je quittais cet endroit consacré 13 où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. D'autre part, quel futur merveilleux m'attendait. J'allais traverser toutes les cités, les villes et les villages et annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrerais. Le royaume des cieux, cet endroit où disparaissait toute maladie, et où tout besoin était satisfait se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un, maintenant que mon esprit était purifié de mes anciennes idées et pensées, je dirigerai la guérison sur leurs maladies et leurs vices. Je leur apprendrai comment soulager leur indigence. Quand la conscience pure en moi commença à diminuer, et que je revins graduellement à la conscience humaine, je me rendis compte que la faim me tenaillait et que je revenais à ma pensée et ma condition humaine. Mes réactions à mes 6 semaines d'expérience se modifièrent. Ma conscience du moi et de mes envies reprit le dessus. Quoi? C'est à moi que sont arrivées ces choses incroyables et tellement inattendues, exultai-je. Il m'a été donné de recevoir la connaissance au-delà de ce qu'aucun autre homme a jamais reçu. Je jubilais en réalisant qu'enfin, Mes doutes et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels s'avéraient justifiés. J'avais raison après tout. Qui eût jamais cru que l'esprit humain pouvait être aussi créatif, qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait vraiment se matérialiser dans le domaine du visible? Je réalisais que Moïse avait dû savoir quelque chose de tout cela, car il avait accompli des choses extraordinaires, quand les Israélites étaient dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites jusqu'alors maintenus en esclavage en Égypte. Je pouvais maintenant retourner auprès des miens et les libérer de l'autorité rigide de leurs anciens 14. 13 Elohed, lit sanctifié, consacré. 14 Terth. Christ revient-il dit sa vérité 23 L'être ma fin devenait douloureuse. Il me vint à l'esprit que je pourrais changer des cailloux en pain pour soulager mon besoin de nourriture, puisque la puissance créatrice Père agissait à travers mon esprit et que de ce fait, tout dans l'univers obéissait à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait des pierres en pain, lorsque quelque chose me retint brutalement. Il me vint fortement à l'idée que la conscience créatrice Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction de tout besoin, de sorte que je pouvais soulager ma faim en le demandant au Père. Je réalisais que si le petit je, le moi humain dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice Père et moi-même et que tout ce que je venais d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur et je m'empressai de demander à la puissance créatrice Père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandai aussi à être soulagé de la faim par le moyen qui serait le meilleur pour moi. Immédiatement, la faim disparut et je sentis une onde d'énergie traverser tout mon corps. Ainsi, j'étais la preuve que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était bien la réalité, et non de l'imagination due à ce temps de jeûne et de solitude dans le désert. Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais sentiers, qui menaient à la sortie du désert. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, à l'air doux et avenant. Il me salua chaleureusement, exprimant son inquiétude à la vue de mon apparence hirsute, et de mon mauvais état physique. Amicalement, il me fit asseoir sur un rocher, et partagea sa viande et son pain, délicieux, avec moi. Je me demandais d'où il venait, et pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé. En réponse à mes questions, il me sourit simplement et ne parut nullement surpris, quand je lui ai raconté avoir passé tant de jours dans le désert que j'en avais perdu la notion du temps. Je lui expliquai comment j'avais été illuminé au sujet de la véritable nature du Créateur du monde, et qu'il m'avait été donné de voir les lois naturelles de l'existence. Il ne fit que sourire et approuver de la tête. Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, lui dis-je joyeusement. Parce que je pourrai les guérir, et les débarrasser de toutes leurs maladies et de tous leurs problèmes. L'étranger répliqua tristement, « Cela prendra des millénaires. » J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi, quand je réalisai qu'il avait disparu. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande, et aussi me prévenir affectueusement que je ne trouverais peut-être pas ma mission aussi simple que cela, malgré mon enthousiasme. Je fus déprimé par sa mise en garde. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin jusqu'au premier village me parut interminable. Comme un changement de la pensée humaine pouvait changer l'humeur. Il me vint à l'esprit que je pouvais encore prouver la vérité de tout ce qui m'avait été montré en enjambant un précipice, ce qui aurait grandement écourté mon trajet. Comme j'étais sur le point de le faire, l'idée me vint à nouveau fortement que j'essayais de prouver que ma période d'illumination était réelle. Si j'avais besoin d'une telle preuve, c'est que j'étais en état de doute, et que je me tuerais probablement, sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pouvais élever mes. Christ revient-il dit sa vérité 24 L'être impensé vers la conscience créatrice pourrait demander une solution à tout problème. Avec quelle rapidité j'avais oublié la vérité. Alors je priais passionnément, demandant pardon d'avoir voulu flatter mes caprices, et faire les choses à ma façon. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée, et un pied plus sûr pour gravir le sentier escarpé. Je découvris aussi que je couvrais si rapidement de longues distances, qu'il me semblait que je survolais le temps. J'étais dans une dimension plus éthérée où le vécu humain s'élevait au-dessus du lourd esclavage de l'épuisante dépense d'énergie. La marche devenait si facile qu'elle me donnait maintenant de la vigueur. J'exultais à l'idée que j'avais trouvé la clé d'une vie plus abondante. Un peu plus tard, je me sentis tellement à l'aise que mon esprit se mit à vagabonder et je repensai à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelai aussi sa mise en garde, et à nouveau mon ancienne nature reprit le dessus et je me sentis profondément révolté à l'idée qu'il ait osé se permettre de me prédire le déroulement de ma tâche. Je décidai qu'il ne connaissait rien à mon futur, et j'écartai sa mise en garde. Vraiment, pensai-je, avec ma connaissance, je pourrais accomplir ce que nul homme n'a jamais fait auparavant. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie, je pourrais facilement amasser des biens, me faire des adeptes sur mon passage, et leur faire part de mes connaissances pour rendre aussi leur vie plus facile. Je pourrais éliminer toute souffrance et toute douleur. Comme je contemplais tous les lieux que je pourrais si aisément visiter, je me sentis soudain effleurer la surface du sol, et m'élever jusqu'au sommet le plus élevé d'une montagne escarpée dominant la région environnante. Tout était là, s'étalant à mes pieds. Je sentis revenir mon premier enthousiasme. Comme il serait simple de réunir les gens, et de leur transmettre tout mon savoir. Je deviendrais puissant, et même célèbre pour avoir délivré l'espèce humaine de toutes ses souffrances et de ses maladies. Je gagnerais l'estime des hommes et leur respect, je ne serais plus considéré comme un bon à rien. Avec un choc énorme, tout ce que je venais d'apprendre, il y avait à peine quelques heures, me revint à l'esprit avec une clarté et une force inouïes. N'avais-je pas appris que ma seule manière de prospérer, était d'abandonner mes volontés propres, et de me tourner vers le cœur pour recevoir son assistance en tout ce que j'entreprendrais? Alors, je me rappelai que la création avait ses propres buts à accomplir. Le processus d'individualisation avait suscité l'attirer et repousser, le prendre et donner dans le comportement humain. Quoique ces caractéristiques humaines fussent la cause de grandes angoisses dans leur vie, n'étaient-ce pas ces mêmes angoisses qui les forçaient à rechercher une meilleure façon de vivre pour trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur place dans le plan humain de l'existence. Avais-je le droit d'apporter ces informations privilégiées aux hommes, et d'annuler ainsi les effets du processus d'individualisation? Je réalisais que je réfléchissais à partir du centre de mon individualité, mon ego, et c'était l'égoïsme qui créait des barrières entre l'humanité et la conscience créatrice père. Je devais donc vaincre mon centre du désir humain, si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon Père, comme tel était. Christ revient-il dit sa vérité 25 lettres à mon intention sincère. Je continuai donc mon chemin, songeant à ce qui m'attendait et comment je pourrais au mieux surmonter les impulsions que me dictait ma condition humaine, afin de rester dans le flux de la conscience Père, dont je recevrais inspiration, guidance, réponse à mes questions, mon pain quotidien, ma santé et ma protection quotidienne. En fait, je réalisais que tant que je me maintiendrais dans ce flux quotidien de conscience Père, aucun mal ne pourrait même m'approcher, et que je recevrais tout ce dont j'avais besoin. Et plus important encore, la conscience Père agissant à travers moi, ferait tout le nécessaire pour aider les personnes qui avaient tant besoin de guérison et de réconfort. À tout instant, il me fallait vaincre ma révolte contre les dures réalités de l'existence pour écouter la voix intérieure, et me conformer à la volonté suprême du Père. Cette volonté suprême était amour parfait, consacré entièrement à la promotion de mon bien suprême. Je réalisais qu'il aurait été tout à fait insensé de continuer dans la voie de ma propre volonté, qui m'avait dicté mon comportement jusque-là. C'est à ce moment qu'il me vint l'inspiration de m'adresser en parabole aux hommes. Ceux qui seraient prêts à recevoir la connaissance, comprendraient et en feraient bon usage. Mais il s'avéra que même mes disciples ne purent se défaire suffisamment des doctrines juives pour pouvoir comprendre, soit le principe de la conscience, soit l'activité de la puissance créatrice divine dans la création. Jusqu'à ce jour, elle est restée un mystère pour tous, sauf pour ceux qui sont spirituellement illuminés. Même le terme spirituel d'illumination ne peut être appréhendé complètement et immédiatement par l'esprit humain, c'est pourquoi ces lettres doivent être lues lentement, et accompagnées de beaucoup de méditation et de prières pour être correctement comprises. Souvenez-vous, à moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant, en vous débarrassant de l'inutile vacarme de vos croyances, préjugés, ressentiments, ambition et de votre égoïsme, avec un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale, vous ne serez pas à même d'assimiler ces pêches comme il le faudrait. Pour redevenir un petit enfant, il vous faut faire l'effort de vous dépouiller de tout votre conditionnement mental passé. Si vous souffrez mentalement, émotionnellement ou physiquement, c'est uniquement parce que, quelles que soient vos croyances les plus sincères, elles ne vous sont d'aucune utilité. Elle ne concourt pas à votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Vous pouvez effectuer des choix et lors de vos choix, vous pouvez faire appel au Père pour vous aider à opérer les changements. Et l'aide vous sera sûrement accordée, à condition que vous n'en doutiez pas. Christ revient-il dit sa vérité 26 lettre 1, je vous encourage donc vivement à continuer à lire et à assimiler les pages suivantes. Je désire vous faire comprendre la force de votre état d'esprit, qui est la somme totale de toute votre programmation consciente et inconsciente. Il est essentiel que vous compreniez que rien de cet état d'esprit humain ne provient de la dimension spirituelle. Il est totalement terrestre et sans doute rempli d'idées mythiques, de préjugés, de malentendus, de ressentiments, de mémoires enfouies de blessures anciennes, et d'habitude censé traiter les aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, y compris toute idée ou croyance religieuse, détermine votre monde, vos relations, vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et vos misères. Il est même responsable de vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé des fils intérieurs de votre conscience personnelle, pensée, espoir, croyance au sujet de la vie, de votre destin, de Dieu. Vous vivez dans un monde de votre propre création. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son état d'esprit individuel construit d'après ses traits de caractère intrinsèques. Si votre état d'esprit ne se développait pas dès la naissance, vous seriez aussi inconscient qu'une statue, dénuée de sentiments, de pensée et de réaction. Vous contempleriez le monde d'un regard vide, et même si une activité débordante vous entourait, elle n'affecterait en rien votre conscience, puisque vous seriez dénué de réaction. Rien ne vous rendrait heureux ni misérable, même si une bombe explosait à côté de vous. Sans état d'esprit, il n'y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. Votre type d'état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est là la première vérité de l'existence que je désire, que vous compreniez et réalisiez en pleine conscience. De plus, tant que vous vivez, votre état d'esprit ne vous quitte pas, où que vous alliez. Vous ne pouvez lui échapper et jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez déjà expérimenté dans votre passé. Beaucoup de personnes traversent leur vie entière en croyant qu'ils n'ont pas de chance. Ils sont persuadés que ce sont les autres qui sont mesquins, méchants, désagréables envers eux et qui leur gâchent complètement la vie. Ils croient que ce sont les autres qui leur cherchent misère et leur créent constamment des difficultés, alors qu'ils sont absolument innocents de toute provocation. Au contraire, les autres ne sont pas à blâmer. C'est l'état d'esprit personnel qui attire à soi des circonstances négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Il est plus difficile à certains de faire face à leurs insuffisances qu'à d'autres, qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. La prière sincère attire la conscience créatrice Père dans l'esprit, silencieusement, dans le secret, elle purifie la conscience humaine de tout ce que le chercheur souhaite éliminer. C'est, par nécessité, un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Christ revient, il dit sa vérité 27 lettre 1. Les schémas émotionnels, vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état d'esprit. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes des événements, possessions et conditions de votre vie future. Ces outils de création œuvrent dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Des personnes peuvent être soumises à des schémas émotionnels indésirables, et en être totalement inconscientes, du fait que ces schémas sont recouverts en permanence par les émotions de la routine quotidienne. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes, et soyez entièrement honnête avec vous-même. Nier la vérité de ces schémas émotionnels, c'est se décevoir et s'empêcher d'atteindre la joie de vivre à laquelle on est destiné. Comment vous sentez-vous réellement dans la vie? J'aimerais que vous vous écriviez une lettre pleine de chaleur et de compassion, disant exactement ce que vous ressentez en répondant aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie ou préféreriez-vous pouvoir cesser de vivre? Si votre réponse sincère est la seconde, alors vous avez une attitude négative vis-à-vis de la vie, et êtes en guerre contre vous-même à un niveau profond. Vous savez, consciemment, que vous devez continuer de vivre votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous-même, vous aimeriez partir. Cette guerre intérieure vous empêche d'attirer à vous tout ce que vous pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel positif. Comment vous sentez-vous réellement avec vos proches? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie, que vous ne voulez pas admettre, ou dont vous n'auriez pas conscience? Comment vous sentez-vous dans votre emploi, avec vos collègues, dans vos loisirs, avec d'autres races, etc. Point d'interrogation. Écrivez tout ce que vous découvrez à votre propos, et mettez ce document en lieu sûr. Ce travail que vous avez fait pour vous-même vous est destiné, à votre seul bénéfice. Vous ne l'avez pas fait pour être une personne meilleure, pour plaire à Dieu ou pour recevoir l'approbation d'autrui. Vous avez fait ce travail pour enlever vos blocages intérieurs, qui empêchent votre développement spirituel, et votre bonheur définitif. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous encourage vivement à mettre votre document, daté, en sûreté. Relisez-le dans un an et vous vous réjouirez des grands changements qui se seront installés dans votre état d'esprit. Vous constaterez aussi que des changements se seront produits dans les circonstances de votre vie. Christ revient, il dit sa vérité 28 lettre 1. Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur renouvelleront vos forces et votre discernement, lesquels, à leur tour, apporteront des changements dans vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes, demandez toujours le bon remède. Laissez au Créateur le soin de vous apporter les bonnes solutions que votre esprit humain ne peut pas même imaginer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement, dans votre état, quoique votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine pour que vous puissiez la percevoir. Rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en celle-ci. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, Croyez et imprimez dans votre conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience aimante du Père et est traitée en vue de ses manifestations visibles en temps voulu et au bon moment. Lorsque j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour l'œuvre avant qu'elle ne fût accomplie. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens comme vous vous sentez mal ou comme la situation, personnelle ou générale, est affreuse. Si vous avez demandé au Père Créateur une solution à vos problèmes financiers ou de santé, quelle insulte au Père Créateur que de continuer à entretenir vos problèmes passés. Vous défaites immédiatement l'œuvre que le Père Créateur a entreprise. Si, après la prière, votre état antérieur n'est pas devenu un état négatif ancien dans votre esprit, retournez prier jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit, et réellement croire que tout est divinement pris en charge, à l'instant même. Retournez maintes fois rendre grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se matérialiseront sûrement. Il y a des milliers de personnes, dans le monde d'aujourd'hui, qui comptent régulièrement sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins, et qui témoignent des multiples bénédictions qu'ils ont reçues dans leur vie. Abandonnez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Tournez-vous dès maintenant vers le Père Créateur universel, qui est la source de votre être, de votre conception, votre croissance, votre développement, votre nutrition, votre régénération, votre guérison, la réponse à tous vos besoins et votre protection, dans un système de loi et d'ordre spirituel. Prenez conscience que tout ce travail merveilleux est constructif, ordonné et qu'il a sa raison d'être. Vous avez vraiment un esprit maître qui vous soutient, vous, votre famille et vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Ne laissez pas vos pensées gâcher l'œuvre créatrice divine. Rappelez-vous, par-dessus tout, que moi, le Christ, j'ai pu accomplir mes soi-disant miracles uniquement parce que j'étais conscient que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il accomplisse son œuvre en moi et à travers moi. Christ revient, il dit sa vérité 29 lettre 1, rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement, parce que vous l'avez puisée dans la conscience créatrice Père. Quand votre conscience personnelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous découvrirez que vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez vous aussi une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison, de soins, de protection, de satisfaction de tout besoin, dans un système bien organisé de loi et d'ordre, pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence puissante s'étendra, par l'intermédiaire de votre esprit, à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos moissons. De même que l'électricité passant par vos mains allumera un bec d'encens dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profitera à tous ceux qui entrent dans votre rayon d'influence. C'était là l'intention première de la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre cœur et votre esprit. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui pour vous montrer comment le faire. Tout d'abord, examinez dans quel état de conscience j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas une prière apprise, définie, je demandais simplement ce qui était nécessaire au Père Créateur rayonnant à travers ma propre conscience, je prenais fortement conscience de la conscience créatrice Père, et visualisais qu'elle était une force dynamique œuvrant, et se manifestant dans le monde visible en tant que créativité, intention intelligente, croissance, nutrition, guérison, régénération, protection, satisfaction des besoins, le tout dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience créatrice Père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison, et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'il n'avait pas foi et espérance en la guérison, ce type de conscience négative ne serait pas influencé par l'influx de la nature de la conscience père, et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que l'œuvre de guérison accomplie par la conscience créatrice père était vraiment l'amour rendu visible sur terre. Je réalisais aussi que toute l'œuvre accomplie par la conscience créatrice père dans le monde visible était de l'amour manifesté, et je rendais grâce. Je réalisais que c'était de la conscience universelle que provenait toute la substance de l'univers, et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice père était l'ouvrier et qu'elle était éternelle et infinie, et que rien, rien, si ce n'est l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher d'accomplir son œuvre. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensée humaine, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour père, et que la volonté parfaite de l'amour père serait accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. Christ revient-il dit sa vérité 30 lettres à noter ceci, je savais aussi que ce qui, dans la conscience de la personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, était alors effacé de son corps. La question était de savoir si sa conscience habituelle ferait revenir les maux divinement effacés dans son corps. C'est pourquoi je disais à la personne qui avait été guérie, va, et ne pêche plus. Je veux que vous sachiez et que vous croyiez de tout votre cœur que mon état de conscience alors que j'étais sur terre, décrit dans les paragraphes ci-dessus, est l'état de conscience auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit et votre cœur. Les illuminations que j'ai vécues dans le désert m'ont permis de réaliser la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur terre. Mais vous pouvez suivre mes traces, si vous en avez la volonté, et je serai sûrement à vos côtés pour vous aider dans votre cheminement. Vous sentirez peut-être ma présence, si vous êtes suffisamment sensible pour cela. Mais si dans un premier temps, vous ne sentez rien, n'en soyez pas affligé, car en effectuant le travail de changement de votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous entrerez en harmonie avec ma conscience christique, et que je saurai tout ce qui vous arrive. Sachez que votre raison d'être sur terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement et jusqu'à ce que, finalement, vous puissiez vous aussi contrôler les éléments et devenir un maître. Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice père, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions climatiques extrêmes, d'infections, de virus et tout autre élément qui actuellement cause des nuisances aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre conscience sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec l'amour père, alors vous aussi, vous serez protégé divinement et deviendrez un canal d'intention créatrice, de croissance, de nutrition, de protection, de guérison, de régénération, de satisfaction des besoins, de loi et d'ordre. L'amour pur sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il sera opérationnel dans toute personne vers qui vous dirigerez sa puissance. Le souhait le plus cher du Christ et que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux chercheurs de vérité. Si vous désirez reproduire des extraits de mes lettres, veuillez en citer la source très clairement comme suit, Lettre du Christ, www.voixchristique.za, titre du livre, Christ revient, il dit sa vérité, Christ l'été, www.christ.co.za, book title, Christ Returne, Spaeitrut.